Merci Florine pour cette présidence et pour avoir repris effectivement les textes du jour qui me posaient un petit peu de questions et qui finalement, à travers ce que le Seigneur t'a mis à cœur de partager ce matin, m'ont bouleversé dans, je dirais, dans l'attitude que l'on doit avoir parce que le Seigneur nous a appelés à cela. Je vais mettre les lunettes, ce sera mieux quand même. Pour ce matin, j'ai pris un des textes du jour que tu as choisi. Je trouve ça bien parce que quelque part, il y a des textes qui ne nous parlent pas forcément, qui sont difficiles à comprendre. Et le texte qui est difficile à comprendre pour moi, et c'est tout ce livre qui est difficile aussi à comprendre, c'est le livre du prophète Ézéchiel. Donc pour ce matin, j'ai effectivement pris ce texte du jour qui se trouve dans Ézéchiel 33. Et je lirai plus tard les versets 1 à 20. Mais avant cela, j'ai désiré voir le contexte dans lequel se situe ce passage d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, au même titre qu'Ésaïe, Jérémie et Daniel. Les grands prophètes. Tu l'as dit tout à l'heure, Florine, c'est à chacun d'aller vers l'autre, de parler. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et quand je lis l'Ancien Testament, je suis frappé parce que le Seigneur a touché des hommes. Et on se dit, ces hommes, c'est des grands hommes. C'est des hommes qui ont été touchés. Et c'est exceptionnel. Donc, nous, on est à côté. On n'est pas des prophètes. Et pourtant, le Seigneur nous dit, vous aussi, allez parler à ces nations. Donc, Ézéchiel, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. La vie et l'œuvre d'Ézéchiel ont été profondément marqués par les bouleversements de son temps. Il fait partie des Judéens déportés à la suite de l'invasion de Jérusalem par les Babyloniens vers 797 avant Jésus-Christ. Ézéchiel a vécu durant une période particulièrement troublée pour le Proche-Orient. Après la fin de l'Empire assyrien et la chute de Ninive, sa capitale, en 612 avant Jésus-Christ, Babyloniens et Égyptiens s'affrontèrent violemment à plusieurs reprises pour acquérir la suprématie sur toute la région. Victorieuses des armées de Pharaon à Carchemish, les troupes de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, soumirent alors tout le croissant fertile. Quelle région merveilleuse! Moi j'envie ceux qui vont là-bas, et pourtant en ce moment c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le moment. Mais que d'histoire. Dans la période qui suivit, en 605 et 582 avant Jésus-Christ, les Chaldéens menèrent plusieurs guerres victorieuses contre le royaume de Juda. La capitale, Jérusalem, ainsi que le temple de Dieu, furent complètement détruits. Les Juifs furent déportés. Ils furent déportés en quatre étapes successives vers la Babylonie. En 605 avant Jésus-Christ, c'était la première déportation. En 597, la deuxième déportation, celle d'Ézéchiel. En 586, la troisième déportation, lors de la destruction de Jérusalem. Et enfin, en 582, avant Jésus-Christ, la quatrième déportation. Ézéchiel était fils de prêtre. On va dire qu'il était peut-être tombé dedans quand il était petit. Nous, ce n'est pas notre cas, on n'est peut-être pas tombé dedans, mais on a la parole. Donc Ézéchiel était fils de prêtre. Et du fait de son éloignement de son pays et du temple, il ne peut pas exercer ce rôle de prêtre. Naturellement, et c'était pas loin l'un de l'autre, il devient prophète. Et c'est vrai qu'il y avait des prêtres qui étaient prophètes, des prophètes qui étaient prêtres. Pour lui, l'exil représente un défi. Le sanctuaire, le temple où il aurait dû effectuer son ministère est en ruine. Il faut essayer de vivre selon la loi dans un pays étranger et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit du prophète auquel Dieu va donner des visions de la destruction du temple de Jérusalem et comment ce temple deviendra un nouveau temple. Comme je l'ai dit, le livre d'Ézéchiel est compliqué. Il est très long. Il couvre une période de 22 ans. Le livre a une structure globalement claire et simple. à la différence d'autres textes prophétiques. On y trouve une distinction nette entre les oracles de jugement, on a beaucoup de mal de nos jours avec le jugement, donc il y a une distinction nette entre les oracles de jugement regroupés dans les deux premières parties et les oracles d'espérance formant la troisième partie. La progression est logique et correspond en partie à la chronologie. La première partie du livre d'Ézéchiel, les chapitres 1 à 24, contient les condamnations des péchés de Juda. Elle s'achève par une annonce de la sanction, le siège de Jérusalem. On peut lire pour cela au chapitre 24, les versets 13 et 14. Chapitre 24, versets 13 à 14. C'est Dieu qui parle et qui dit à travers la bouche d'Ézéchiel au peuple d'Israël, ton impureté est un crime parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'ai assouvi ma fureur contre toi. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence. Je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur l'Éternel. La parole est une source d'information. La parole est une source de transformation, tu as dit, Florine, tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à travers ce passage d'Ézéchiel, nous avons une source d'information pour nous aujourd'hui. J'entends encore toutes ces déclarations, tous ces oracles de jugement. La seconde partie du livre montre que le Seigneur domine sur toutes les nations, du chapitre 25 à 32. Et la troisième partie, elle rebondit sur la fin de la première, où Jérusalem est effectivement prise, mais Ézéchiel annonce une restauration d'Israël et une protection face à ses ennemis. C'est une promesse pour les exilés que l'on peut retrouver dans les versets 21 à 29 du chapitre 39. Et c'est vrai que je préfère les promesses au jugement. Et je vous propose de lire ce petit passage, les versets 21 à 29 du chapitre 39. Je te rétablirai, mon honneur parmi les nations. Toutes les nations verront la mise en œuvre de mes jugements et le déploiement de ma puissance contre eux. La communauté d'Israël reconnaîtra alors que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses fautes que la communauté d'Israël a dû partir en exil. C'est parce que les Israélites m'ont été infidèles, si bien que je me suis détourné d'eux et que je les ai livrés entre les mains de leurs adversaires afin de les faire tomber par l'épée. Je les ai traités d'après leur impureté et leur transgression, et je me suis détourné d'eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je vais ramener les déportés de Jacob. J'aurai pitié de toute la communauté d'Israël, et je ferai respecter mon saint nom. Ils porteront le souvenir de leur humiliation, et d'où tout leur acte d'infidélité envers moi, à l'époque où ils habitaient en sécurité sur leur territoire, sans personne pour les effrayer. Quand je les ramènerai du milieu des peuples, quand je les rassemblerai en les tirant des pays de leurs ennemis, à travers eux ma sainteté sera manifestée aux yeux de beaucoup de nations. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai exilés parmi les nations et qui les réunit sur leur territoire sans laisser aucun d'eux là-bas. Je ne me détournerai plus d'eux, parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Amen pour cet esprit que tu déverses sur ta communauté. C'est aussi l'espérance d'une nouvelle ère, marquée par le retour et le rassemblement des Israélites dispersés dans le monde et le retour de la gloire divine dans un nouveau temple. Et cet esprit qui nous a envoyés. Et pour terminer, les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, c'est des détails techniques. Il détaille les dimensions et la composition du nouveau temple. Et je l'ai vu sur des maquettes, et c'est vrai que c'est super impressionnant. En plus, il y a les 12 tribus d'Israël qui sont autour, et ça me fait penser à Jésus qui est entouré de ses 12 disciples. Ézéchiel, donc, termine son livre par la vision grandiose d'un pays complètement rebâti et restauré. Le Seigneur lui laisse entrevoir non seulement le retour de son peuple en exil, mais aussi le profond renouveau spirituel qui va toucher son pays, sa capitale. Ce peuple sera désormais capable d'obéir aux lois de Dieu. Il vivra définitivement en paix. Un nouveau temple, carré, démesuré, occupera une place importante et rythmera la vie quotidienne et les jours de fête des Israélites. La glorieuse présence du Seigneur y brillera à nouveau. Voici un petit peu le contexte du livre d'Ézéchiel. Le jugement, l'espérance, la gloire du Seigneur. Et je voulais qu'on s'arrête sur ce passage d'Ézéchiel au chapitre 33. On a lu quelques versets tout à l'heure dans la présidence, mais je vous propose de lire les versets 1 à 20. Et on va noter sur ce verset le nombre de fois où le Seigneur parle de parler, parle d'avertir, parle d'entendre, d'écouter. Ézéchiel 33, versets 1 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, ta justice, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et elle mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison Israël. Parole difficile à entendre. Parole de jugement. mais aussi parole pour Ézéchiel, parole pour chacun d'entre nous. Parler, entendre, avertir, vivre. Sentinelle. Au début de cette nouvelle division, Éternel rappelle au prophète ses consignes de sentinelle. On l'a chanté tout à l'heure, et j'aimerais qu'on le chante après mon message, si c'est possible. La sentinelle. Telle que l'avait annoncé Ézéchiel au début de son livre, au chapitre 3, les versets 14 à 22. Là, le Seigneur vient rappeler cette mission à Ézéchiel. Si on relit le chapitre 3, les versets 14 à 22, il était déjà dit « L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. » Ça, c'est Ézéchiel qui parle. « J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et elle mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Moi, ça me fait trembler ces paroles. Ça me fait trembler, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile d'aller annoncer aux hommes la grâce de Dieu. Et je me dis, bah oui, voilà un prophète qui a été choisi. Bah, je préfère que ce soit lui que moi, quand j'entends les paroles là. Mais non, le Seigneur veut nous parler à chacun. Je pense que vous l'avez compris, il est beaucoup question de parler, de dire. Je l'ai compté à peu près, et ça compte plus de 25 fois dans le passage lu. On parle de parler, dire, avertir, entendre, écouter. Le rôle de la sentinelle est d'avertir le méchant, de l'exhorter à se détourner de sa voie d'iniquité. Une sentinelle, je suis là sur mon estrade et je vous regarde, donc je suis une sentinelle, je regarde, j'écoute tout ce qui se passe autour de moi. Elle doit être prête à prévenir si un danger approche. Et si ceux qui sont prévenus ne tiennent pas compte de ces avertissements, cela leur sera préjudiciable. Et c'est vrai, dans le passage qu'on a lu, ce qui me frappe, c'est la responsabilité de la sentinelle. S'il n'avertit pas, c'est assez risqué et péril. Parce que si la personne est perdue, la sentinelle est perdue aussi. Elle ne sert à rien. Et ça, c'est super frappant. Et je dirais, dans ce passage d'Ézéchiel, où les dangers existaient, il y en avait comme j'ai expliqué au début de mon message, beaucoup de dangers. De nos jours, nous n'avons plus de prophète comme Ézéchiel, mais nous avons la possibilité de lire, d'écouter et de méditer la parole, la Bible. Écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique, c'est aller à la ruine. L'image de la maison construite sur le roc et de la maison construite sur du sable en est l'illustration au moment du sermon sur la montagne qui a été fait par Jésus. Je vais relire les passages 24 à 27 de Matthieu 7. Il est dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Être une sentinelle, c'est aussi le service de chaque chrétien engagé, car elle connaît par la parole le sérieux du temps actuel. Si ma trompette rend un son confus, peut-on lire en 1 Corinthiens 14, versets 4 à 9, ou reste muette, je ne servirai à rien. Si ma trompette rend un son confus ou reste muette, je ne servirai à rien. 1 Corinthiens 14, versets 4 à 9. Je commencerai au verset 6. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant les langues, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si le chrétien ne prévient pas, Dieu se pourvoira d'autres sentinelles. Mais j'aurai manqué à ma responsabilité. Il m'en sera demandé compte. L'apôtre Paul, justement, avait fidèlement rempli ce service à Éphèse. Et il a pu dire aux anciens de cette ville, « Je suis net du sang de tous. Je n'ai cessé d'avertir chacun de vous avec les larmes. » En acte 20, versets 26 à 28, que je vais lire. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » En réponse à ces exercices, à ces impératifs, l'Éternel répète sa précieuse déclaration. « Je suis vivant, si je prends plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à ce que le méchant ne se détourne de sa voie et qu'il vive. » Car comme l'a dit tout à l'heure Florine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la responsabilité individuelle qui devient maintenant le principe et la règle. Mais cela n'empêche pas, comme nous le voyons, qu'un seul soit appelé et doit en avertir beaucoup. Telle était la place du prophète à l'époque. Entendre ou mettre en pratique. L'accomplissement de ces prophéties sur Jérusalem avait rendu le prophète brusquement populaire. Quel piège pour Ézéchiel, d'autant plus subtil que ses flatteries venaient après des moqueries. On aimait l'entendre, on appréciait son éloquence. La parole de Dieu était assimilée à un beau discours agréable et le fond était supplanté par la forme. Or, celui qui ne fait qu'écouter la parole sans la mettre en pratique se séduit lui-même. Notre attitude, mon attitude, pendant les réunions d'église, est-elle en opposition avec la réalité de ma vie? Quelle tristesse pour le cœur des serviteurs de Dieu de constater que le message de Christ n'est plus apprécié et qu'il n'a aucun effet pratique. La meilleure réaction vis-à-vis d'un message de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Quelle belle méditation! Mais plutôt, le Seigneur m'a parlé clairement. Je sais ce que je dois faire. Comme l'a dit tout à l'heure Florine, c'est une source d'information. Mais aussi, et c'est là où c'est le plus important, et c'est là que tu m'as touché tout à l'heure Florine, c'est une source de transformation. Prenons garde à une satisfaction purement intellectuelle, qui nous réjouirait sur le moment, mais qui ne changerait rien dans nos vies. Je vous laisse ces paroles à méditer. Seigneur, tu nous appelles à écouter ta parole, à la prendre au sérieux et à la mettre en pratique. Donne-nous chaque jour et à chaque moment de la garder près de notre cœur, afin d'en vivre et de construire sur le roc. Quand nous nous éloignons, fais-nous la grâce de revenir à toi sans remettre au lendemain, mais de nous tourner vers toi tout de suite et avec détermination. Accorde-nous aussi le courage d'une parole attentive aux autres, une parole qui ne juge pas, mais invite à réfléchir sur les conséquences de nos actions. Tu es un Dieu qui aime et désire la vie et le bonheur pour tous. Car en Jésus, tu as ouvert un chemin nouveau. Lui, le seul juste, envoyé par son Père sur cette terre. Amen.